Place Info.
Bonsoir. À la une, Emmanuel Macron a-t-il convaincu les maires de France? Également, les retraites. Allons-nous devoir travailler plus longtemps? Et l'Iran qui s'embrase loin des regards. C'est dans les informés avec Sophie de Ravinel, grand reporter politique au Figaro, avec Nora Hammadi, journaliste présentatrice de Vox Pop, le magazine d'investigation sur l'Europe, tous les dimanches sur Arte, avec Mariam Pirzadeh, journaliste présentatrice à France 24 et grande spécialiste de l'Iran, et avec vous Thomas Clay, professeur de droit à la Sorbonne, Université Paris 1. Bienvenue à tous les quatre, nous sommes ensemble jusqu'à 21h comme tous les soirs, à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Il était très attendu, lui qui avait zappé le rendez-vous l'année dernière. Emmanuel Macron s'est donc exprimé devant les maires de France, à peu près une heure et demie de discours, des maires réunis porte de Versailles à Paris, comme d'habitude, et il leur a fait une sorte de déclaration d'amour pour la France.
Je ne suis certes pas maire d'une commune de France, mais je me sens chaque jour un peu plus à votre contact maire de la commune France, c'est-à-dire à la fois gardien de l'essentiel, l'unité de la nation, et du quotidien concret des vies, de la dimension humaine qui, à la fin, doit guider toute action publique.
Sophie de Ravinel, c'était le discours, non pas « je vous ai compris », mais « j'ai besoin de vous ».
Oui, absolument. Un discours adressé aux maires, je vous aime, j'ai besoin de vous. Un discours qu'il adressait d'ailleurs aussi bien aux maires qu'aux Français, donc un double discours. Et finalement, un discours beaucoup plus à la façon d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire un discours dans la séduction et pas forcément dans la précision. Et d'ailleurs, il l'a revendiqué.
Vous pensez à quel thème notamment? On va y venir.
Sur beaucoup de thèmes qu'attendaient les maires.
Vous l'avez trouvé un petit peu
extatique? Oui, absolument. C'est-à-dire un discours qui correspond... un discours qui ne rentrait pas dans les détails. Il l'a assumé en disant, en reprenant François Mitterrand, qui disait « si je voulais vous donner des détails, je ferais ministre ». Et donc, en l'occurrence, il a tout laissé à Édouard Philippe, qui doit venir jeudi devant les maires. Et donc, il s'est contenté de vouloir les rassurer et de dire qu'il faut faire
bloc. Un discours de politique générale, Thomas Clay ?
Discours de politique générale du président de la République. Vous savez que c'est un oxymore dans la Ve République. Vous le savez bien, Jean-François Attali. Non, ce qui m'intéresse d'un point de vue, avant de venir aux réformes, aux propositions qui sont faites, c'est un peu le choc des deux mondes politiques. Et c'est d'autant plus amusant, en quelque sorte, que c'est précisément l'ancien monde, entre guillemets, celui des maires, qui a voulu être contourné par le président de la République, qui incarnait le nouveau monde. Et il est ramené à l'ancien monde, à l'ancienne politique. Et la subtilité ou le côté piquant de l'histoire, c'est qu'en plus, le président de cet ancien monde, c'est probablement celui qui sera son adversaire dans 2 ans et demi maintenant. Et donc, on a une sorte de confrontation.
Vous parlez de François Baroin.
François Baroin,
hein. Il y avait l'affiche, la tribune, hein, les deux côte à côte. On y a pensé tous. Hein.
Oui, on voit bien qu'il y a une opération pour lancer François Baroin comme candidat des Républicains dans 2 ans et demi. Il l'accueille, il vient un peu faire allégeance à l'ancien monde pour dire « je suis aussi présent dans l'ancien monde, moi le représentant du nouveau monde ». Donc tout ça tout ça montre plutôt une rencontre stimulante sur le plan intellectuel.
Nora m'a dit, il y a eu cet aveu, j'ai tant appris de vous, une espèce de moment d'humilité du chef de l'État après, au fond, on va dire un début de quinquennat assez vertical.
Bah là, on arrive effectivement à mi-mandat, puis il faut se souvenir de la séquence politique. Hein. En septembre dernier, Gérard Collomb, en octobre, il démissionnait, mais il avait quand même aussi pointé l'incapacité, en fait, de ce nouveau monde, de cette République en marche, à être en osmose avec ces territoires-là. On sait à quel point les maires aussi s'étaient montrés extrêmement virulents vis-à-vis de Emmanuel Macron et des représentants de la République en marche. La question aussi de la suppression de la taxe d'habitation avait été au cœur de ces échanges plutôt aride. Et là, effectivement, on sort d'une année de gilets jaunes. Derrière, à partir de janvier, il a bien fallu organiser ce grand débat. Les maires ont été en fait au front sur ces questions. Donc, cette capacité en fait qu'a eu le président de la République aujourd'hui de se présenter à eux en faisant un mea culpa, finalement, avait-il le choix? Fondamentalement, il n'avait pas le choix à partir du moment où, sans eux, on voit bien que il y a quand même une dimension un peu hors sol qu'il faut rattraper
une
aujourd'hui.
Une petite incise de réaction par rapport à ce que vous dites, que j'ai bien aimé d'un maire, celui de Poissy, Carl Olive, qui dit « après avoir fait le coq, il a fait le maire poule ».
Ah, c'est très joli, c'est une très belle expression. Maria Pirzadeh, pour clore ce tour de table, vous diriez qu'il les a emballés?
En tout cas, il arrivait en terrain conquis parce que on avait dit, Baron avait notamment indiqué qu'il arriverait, qu'il serait applaudi, qu'il aurait face à lui des maires qui seraient à l'écoute. Mais effectivement, ça a été un petit peu de la calinothérapie.
Je vous ai entendu. Quand même pas de sifflet.
Froid. Il n'y a pas eu de sifflet. Froid, c'est vrai qu'il, alors son nom avait été sifflé l'année dernière parce qu'il n'était pas venu. Après, il va recevoir des maires demain. Les annonces, elles sont attendues pour jeudi. Mais effectivement, à 4 mois des municipales, on voit bien qu'il était en opération reconquête.
Je vais vous faire écouter la réaction d'un des maires qui a assisté donc à ce discours, en l'occurrence Christophe Béchu, qui est le maire d'Hiver Droite d'Angers. Je précise, hein, attention, il est Macron compatible.
Oui, il m'a convaincu, j'ai apprécié la posture d'humilité d'abord avec laquelle il est arrivé devant le Congrès. On sent bien que le grand débat est passé par là. Et il a tendu la main en disant qu'il y avait des réformes à conduire, qu'il ne fléchirait pas sur le fait de les faire, mais qu'il souhaitait pouvoir les faire avec nous. Et avec beaucoup de remerciements, parce que je pense qu'il a appris à nous connaître au travers de la crise des Gilets jaunes. Ça a eu au moins ça de salutaire. Ouais. Et que dans toutes ces rencontres, il a perçu qu'on pouvait être des partenaires.
Ma clé, ça vous fait un petit peu sourire.
Bah, si l'opération de calinothérapie était lancée, manifestement, elle a fonctionné.
Parce qu'il y a un creux, il y a les municipales. Hein.
Oui, puis on peut dire, si on veut être tout à fait complet, que Christophe Béchu attend impatiemment l'investiture de la République En Marche, puisque pour l'instant, il a fait allégeance, mais la réciproque n'est pas encore venue. Donc, peut-être que cet exercice de contrition contribue à obtenir cette investiture. Mais c'est vrai que dans la manière dont s'est exprimé aujourd'hui Emmanuel Macron à l'Assemblée Générale des Maires de France, il avait le sens de la formule. C'est vrai que la Commune France, c'est une belle formule. Vous êtes les piliers de la République, c'est une belle formule. Quand je me déplace en province, le premier visage que je vois, c'est le vôtre. Bon, il sait faire ça quand même, incontestablement.
Et la formule de Carl Olive était pas mal aussi tout à l'heure, Sophie de Ravinel. Vous voulez ajouter quelque chose ?
Oui, parce qu'en fait, il y a quand même ce discours de séduction. Moi, je ne suis pas sûre qu'il soit, on va avoir sans doute l'occasion de le développer, mais je ne suis pas sûre qu'il ait pris dans l'Assemblée. Mmh. Je ne pense pas que les maires soient dupes. Et là encore, en termes de réaction, j'ai bien aimé celle de Jean Leonetti, qui dit que c'était un discours de séduction à des hommes d'action. Je pense pas qu'il soit dupe, même si effectivement les uns et les autres ont des agendas politiques en tête. Je pense pas qu'il soit dupe de ce...
Voilà. Allez, on reste sur le sujet, 20h10 sur France Info. Nous marquons tout d'abord une pause avec le rappel de l'info. Et vous, Soizic Bourg.
Opération réconciliation pour Emmanuel Macron au Congrès des maires. La lutte contre le communautarisme, la délinquance, l'écologie, l'aménagement du territoire. Le chef de l'État tente de recoller les morceaux avec les élus. Il exclut une interdiction des listes communautaires, mais promet des mesures à venir dans les prochaines semaines. La théorie d'un camion trop lourd pour le pont de Mirepoix-sur-Tarn se confirme. L'engin pesait plus de 50 tonnes, selon le procureur de la République de Toulouse. Bien au-dessus des 19 autorisés, le chauffeur qui dirigeait une entreprise de forage de l'autre côté de l'ouvrage a été retrouvé mort hier. Un vrai mouvement social est en train de se construire. Déclaration du secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, qui prévoit beaucoup de monde dans la rue le 5 décembre pour la grève contre la réforme des retraites. Les policiers pourraient se joindre au mouvement si le gouvernement ne répond pas à leurs revendications, notamment sur leurs conditions de travail. Combien de personnes tuées en Iran pendant les manifestations contre la hausse du prix de l'essence? Le bilan pourrait atteindre 200 morts selon Amnesty International. L'ONU, de son côté, dénonce l'usage de la force et notamment les tirs à balles réelles. Et puis que ce fut dur, mais la France est finalement venue à bout des Japonais en Coupe Davis dans sa nouvelle formule, victoire 2-1.
France Info, et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors le chef de l'État s'est effectivement exprimé sur le communautarisme, comme le rappelait à l'instant Soizic Bourg, avec peut-être des mesures annoncées dans les prochaines semaines, mais il s'est prononcé lui-même contre l'interdiction des listes communautaires. On écoute le chef de l'État.
Comment définirait-on les listes communautaires? Qui en serait le juge? Selon quels critères? Et puis, surtout, il ne faut pas en la matière avoir quelque naïveté que ce soit. Il ne s'agit pas de proclamer l'interdiction pour régler le problème. Et ce combat, je sais que je peux compter sur vous pour le mener, sur tous les maires de France, pour le mener et pour l'emporter. Et je veux vous dire une chose, vous pourrez compter sur moi, mais en acte, au quotidien, chaque jour, pour les débusquer, les combattre, fermer les associations, fermer les écoles quand elles ne respectent pas absolument les lois de la République. C'est ainsi qu'il faut mener ce combat.
Alors c'était l'un des temps forts de ce discours d'Emmanuel Macron, Nora Amadi. Vous évoquiez tout à l'heure notamment la taxe d'habitation supprimée. Il y a d'autres préoccupations des maires de France. C'en est une ?
Je ne crois pas. Enfin, il y a effectivement une préoccupation de certains maires qui voient en fait sur leur territoire, notamment ceux qui ont beaucoup de quartiers populaires au sein de leur territoire, en fait, voir pointer une forme de communautarisme, de repli sur soi. Mais fondamentalement, les maires que je rencontre, moi, sont plutôt préoccupés par la fermeture d'hôpitaux, par l'incapacité en fait à prendre en charge, par exemple, les divisions, les dédoublements de classes en CP-CE1. Quoi d'autre ? La question des transports, la question de la précarité, plutôt que cette question. Puis après, il faut aussi se poser... Comment faire en sorte en fait de lutter contre ça? On sait très bien que potentiellement une loi passerait-elle en fait, mais ça peut-être qu'un universitaire pourra nous le dire. La barre du Conseil constitutionnel, interdire les listes communautaires, est-ce à dire que du coup on interdit aussi le parti chrétien-démocrate de Christine Boutin? Est-ce à dire aussi que du coup que c'est un nombre de personnes issues de l'immigration comparativement en fait sur des quotas en termes de listes? Comment ça se met en place?
À 30 secondes pour répondre là-dessus.
Non, c'est un quiz. C'est un quiz. Donc, tout dépend effectivement des règles de composition, etc. Et je crois qu'Emmanuel Macron a raison de dire qu'on ne sait même pas ce que c'est qu'une liste communautaire. Oui. Mais puisque j'ai la parole, je la garde. Et pour dire simplement que d'un point de vue, en tout cas juridique, mais pas seulement, d'un point de vue républicain, pour moi, le communautarisme, c'est l'ennemi de la République. Ça n'a rien à faire dans des élections.
Sophie Dravinel.
Oui, et j'ajouterais une nuance par rapport à ce que vous disiez sur le fait que les maires ne s'en préoccupent pas. J'allais dire que y a quand même, peut-être que les maires s'en préoccupent dans l'image que les Français peuvent en avoir. Mmh. Je pense que c'est une préoccupation en fond d'esprit. C'est une crainte qui s'appuie sur un discours qui peut être tenu par les uns et les autres dans des quartiers, comme vous l'exprimez très bien, où certaines catégories de la population française peuvent se sentir remisées dans des zones qu'elles ne souhaitent pas et veulent affirmer leur identité. Et je pense qu'il y a une zone de danger, il y a une zone de conflit. C'est ça qui, à mon avis, préoccupe les maires. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a très bien dit en disant « Est-ce qu'il faut bousculer les règles parce que les esprits s'échauffent ?» Il n'en est pas sûr, il a décidé que non. Donc les esprits s'échauffent, de fait la marche contre l'islamophobie l'a manifesté, tous les débats que ça a déclenché l'a manifesté. Il y aura peut-être quelques listes dites communautaires en France à ces élections. Moi je suis sûre qu'elles vont concentrer toute l'attention de beaucoup d'observateurs.
Oui. J'ajoute quand même que Emmanuel Macron a dit ne pas bousculer les règles parce que les esprits s'échauffent.
Oui mais les esprits s'échauffent parce que c'est lui qui les échauffe les esprits, c'est mais lui qui met le débat de l'immigration.
Bruno Retailleau,
on l'a vu sur le débat la semaine dernière
avec Bruno Retailleau aussi, c'est lui qui a déposé qui veut déposer cette loi. Enfin, je veux dire, c'est pas une question du gouvernement.
À force de mettre l'immigration au cœur du débat politique de cette rentrée depuis le mois de septembre maintenant,
là,
faut
c'est
pas s'étonner
que l'esprit s'échauffe. C'est le politique qui est à l'origine de ça,
Puis Mariam, Nora Madi.
Après, moi, je pense que fondamentalement, si on se retrouve avec 2-3 listes, est-ce à dire, en fait, qu'il faille que ça prenne des proportions jusqu'à devoir prendre une partie du discours, en fait, d'Emmanuel Macron face à ses maires? Je ne sais pas. Il y aura certainement bien plus de listes citoyennes qui se montreront dans les municipales, en fait, qui s'annoncent. Que
et dont personne ne parlera, nous sommes
exactement.
Bien d'accord.
Allez, je vais vous faire écouter un autre extrait de ce discours d'Emmanuel Macron sur un sujet quand même qui est au cœur des préoccupations des maires et des élus locaux, c'est la suppression progressive, plus que ça même, de la taxe d'habitation.
Sur la taxe d'habitation, si durant votre campagne, beaucoup de vos électeurs vous reprochent la baisse, faites-le moi savoir. Et qu'ils viennent se plaindre. Et parfois, peut-être, vous aurez le droit d'empocher les félicitations qu'ils vous livrent à vous, et pas au gouvernement, parce que c'est ce qui va vous arriver.
Plutôt habile, Mariam Pirzadeh, cette pirouette du chef de l'État, au fond, il met face à face les maires et leurs électeurs.
Et leurs électeurs à 4 mois des municipales, donc effectivement, c'est assez habile. On leur demande, effectivement, c'est leur grande quinte, cette suppression de la taxe d'habitation. On leur demande 13 milliards d'euros d'économies, c'est énorme. Donc effectivement, ils se sentent floués. Il y avait un maire, je n'ai plus son nom en tête, qui disait, on a l'impression qu'on passe deux fois à la caisse, en fait, avec la suppression de cette taxe d'habitation. Il ne propose pas vraiment de solution pour enflouer les caisses des communes. Donc effectivement, un électeur ne va pas se plaindre de la taxe d'habitation, puisque ce sera une taxe de moins à payer. Donc oui, c'est très habile. C'est le mot.
Sophie Dravinel, certains maires, au fond, se sont quand même inquiétés après le discours en expliquant est-ce qu'au fond tout cela sera compensé? Parce que c'est ça la question finalement.
Oui, absolument. Et les maires s'en inquiètent. Et c'est la question des finances locales et c'est la question des moyens qu'ils ont. Et c'est tout un débat sur les municipales aussi parce que c'est compensé. Donc pour les habitants, au final, même s'ils peuvent se féliciter de la baisse de cette taxe ou de sa disparition, le problème c'est que je ne suis pas sûre qu'au final ils s'y retrouvent.
Oui, là-dessus, Nora Hammadi, vous avez la sensation, comme le disait tout à l'heure Sophie de Ravinel, que le président de la République est entré un petit peu dans, on va dire, a mis les mains dans le cambouis lors de son discours, parce qu'il évoquait également, la hausse de la violence, des incivilités, en rappelant effectivement les 10 000 postes supplémentaires de policiers, de gendarmes qui étaient censés supposément arriver dans les quartiers prochainement.
Non, mais effectivement, en fait, mais est-il. Enfin, peut-il en
être autrement? Est-ce que nous sommes dans les d'annonce?
Mais peut-il en être autrement? Il a fait aussi le constat, en fait, des fractures territoriales, numériques, sociales, en fait,
viril.
De la France.
Un discours viril.
Exactement.
Un discours général,
mais,
quoi.
Mais sur lequel, en fait, en indiquant, en fait, que là-dessus, le gouvernement avait pris des grandes réformes, pardon, mais j'étais là, genre, mais lesquelles? On est face aujourd'hui, en fait, à des mouvements au sein des pompiers, dans les hôpitaux publics, les étudiants.
Ça ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu des mesures qui étaient prises.
Il y a des mesures, mais en fait, sur le terrain, les maires, en fait, et notamment dans les zones les plus reculées, celles qu'on tente à considérer comme étant périphériques, que ce soit les quartiers populaires, les zones rurales, la difficulté, en fait, pour ces maires qui doivent faire face, en fait, à une forme parfois d'inégalité républicaine, en fait, face aux moyens. Je vous rappelle juste que dans le 93, certains maires, en fait, certains édiles ont assigné l'État pour une rupture d'égalité, en fait, parce qu'il y a eu même des rapports sur ces questions. C'est la même chose, en fait, dans plusieurs villes de province. Qu'est-ce qu'on devrait dire, en fait, à ces maires-là, si ce n'est de dire on vous a renvoyé, en fait, quelques centaines. Mais, en fait, je serais tenté de dire, pour reprendre une expression qui a fait Florès, le compte n'y est pas, Kevin ou Emmanuel.
Thomas Clé.
En fait, le problème, c'est pas celui de la taxe d'habitation. Tout le monde est pour la suppression d'une taxe. Le problème, c'est la compensation.
Sa compensation, voilà. Absolument.
Et effectivement, je pense que ce débat sur la suppression de la taxe, là, ce que fait Emmanuel Macron, c'est un sophisme. Tout le monde est d'accord sur la suppression de la taxe. Mais je pense qu'il faut replacer cette espèce de sortie avec le deuxième partie de son discours, qui est lorsqu'il annonce un grand débat au deuxième trimestre 2020, c'est-à-dire demain, sur la décentralisation. Parce que d'un côté, on veut promouvoir la décentralisation, mais d'un autre côté, on retire les taxes, ou en tout cas les ressources
les
nécessaires
moyens,
à cette décentralisation. Ouais. Donc c'est vrai que là, il y a une contradiction entre un jeu de mots, ou une blague, ou un sophisme, et un discours plus fondamental qui arrive sur la deuxième partie du quinquennat.
Allez, je vais vous reposer la question dans un tout petit instant. A-t-il apaisé ces maires de France avec lesquels la relation était si houleuse au début du quinquennat? 20h et 20 minutes, on va tâcher d'y répondre sur France Info. Rappel de l'info tout d'abord avec vous, Sois Zigbourg.
Un poids lourd de plus de 50 tonnes pour les 19 maximales autorisées sur le pont de Mirepoix-sur-Tarn. Le camion qui a emprunté l'ouvrage hier matin semble être la cause immédiate de son effondrement. Déclaration du procureur de la République de Toulouse. Le chauffeur connaissait bien le secteur. Il n'a pas hésité à s'engager sur la structure. Il est mort dans l'accident. La fermeté d'Emmanuel Macron sur les listes communautaires au Congrès des maires de France, à 4 mois des municipales. Elles ne seront pas interdites, mais des mesures seront prises la semaine prochaine. Le président de la République, qui appelle également les élus à la modération sur les arrêtés anti-pesticides. Un important réseau de trafic de drogue démantelé à Lyon. 4 personnes interpellées, mises en examen et placées en détention provisoire. 16 armes de poing, 5 armes lourdes, 240 000 euros et plusieurs kilos de cocaïne saisis pendant les perquisitions. L'homme blessé à l'œil pendant la manifestation des Gilets jaunes samedi à Paris va porter plainte. Il a perdu l'usage de son œil gauche, probablement un tir de grenade lacrymogène. L'IGPN, la police des polices saisie hier par le préfet de police. Et puis un dernier hommage à Raymond Poulidor en Haute-Vienne dans son village de Saint-Léonard de Noblat. Les obsèques de l'ancien coureur décédé à 83 ans ont eu lieu ce matin.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Où en est donc cette relation entre le chef de l'État, Emmanuel Macron, et les maires de France, si compliquée dès d'ailleurs le départ de la campagne présidentielle, puisqu'il avait annoncé la couleur, le candidat Macron, c'était d'annuler cette taxe d'habitation. Écoutez ce qu'on a dit ce matin, c'est assez cocasse, Gérard Larcher, qui était le président du Sénat, l'invité d'Europe 1.
Baisse des dotations pendant 5 années, elles se sont stabilisées aujourd'hui. La seconde des choses qui est la montée des incivilités, le drame de Signes. Et puis une loi NOTRe, une loi sur la nouvelle organisation territoriale, qui a bouleversé le rôle et la place du maire entre communes, intercommunalités. Et puis une ambiance, il faut bien le dire. Il y a un an, c'était balance ton maire.
Et aujourd'hui, si vous deviez, Gérard Larcher, la qualifier cette relation, vous diriez
J'allais dire confiance approuvée.
Sophie de Ravinel, de balance ton maire à confiance approuvée, Jolie formule encore.
Oui, absolument. Oui. Et tout le monde aujourd'hui se défoule pour trouver la meilleure caractérisation de ce moment qui, il est vrai, est assez crucial.
Là, on est avant le discours, mais comme quoi la chose était déjà un peu préparée,
mais
finalement.
Complètement. Oui, et c'est pour ça que les maires l'ont attendu sans sifflet, mais froidement, avec respect, mais avec une attention prudente. En fait, tout le monde sait bien que là, on est au tournant du quinquennat et que, d'ailleurs, Emmanuel Macron l'a reconnu lui-même, la crise des Gilets jaunes n'est pas derrière nous. Le pays risque à nouveau de s'embraser et les maires, comme Emmanuel Macron, n'ont pas intérêt à embraser de nouveau le pays.
Oui, pas question de jeter de l'huile sur le feu, c'est ce qui semble être dit ce matin. Je vais vous proposer un autre document très intéressant sur France Info d'ailleurs. Vous savez qu'Emmanuel Macron, c'est ce qu'a rapporté le journal du dimanche, s'est dit bouleversé après avoir vu le film Les Misérables.
Il paraît que c'est un peu exagéré.
Du réalisateur Lajli. Vous allez rectifier, ne vous inquiétez pas, le chef de l'État aurait alors demandé, je cite le JDD, au gouvernement de se dépêcher de trouver des idées et d'agir pour améliorer les conditions de vie dans les quartiers. Anecdote qui n'a pas échappé au réalisateur Lajli, qui était l'invité de Marie Bernardo sur France Info à la mi-journée.
Les trois quarts des gens qui habitent dans ces quartiers ont voté Emmanuel Macron et finalement, pour l'instant, il n'y a pas de retour. Donc là, il a vu le film, on est très content.
Il dit qu'il a été bouleversé par sa justesse et il a apparemment demandé au gouvernement de trouver des idées, d'agir pour améliorer les conditions de vie.
Bah oui, bon. Il serait temps de mettre des vraies mesures en place, parce que c'est des plans banlieues, on en a eu des dizaines et des dizaines, et ça n'a pas forcément fait avancer les choses. Donc il serait temps qu'il y ait un vrai plan banlieue et que les vrais habitants soient aussi impliqués dans ce plan.
Nora m'a dit, rien ne vaut un bon film.
Alors, rien ne voit mon film, mais c'est presque inquiétant. Parce que faut se souvenir qu'il y a eu l'appel de Grigny, en fait, en octobre 2017, alors qu'il venait d'être élu. Donc, des dizaines de maires de toutes, au-delà, en fait, des clivages partisans qui ont appelé, en fait, à un plan Marshall dans les banlieues. Borloo, qui rend son rapport quelques mois plus tard, suite à cela, un rapport enterré de manière quand même plus qu'insultante vis-à-vis de quelqu'un qui a travaillé gratuitement, voilà, et avec cette phrase bénévolement, oui. Pardon, avec cette phrase, on ne se remet plus aujourd'hui des rapports entre mâles blancs. Bon, voilà. Après les emplois aidés qui ont été aussi qui a représenté la fin des emplois aidés.
Bon, vous trouvez ça un petit peu fort de café.
Non, mais les solutions quand on lit cette petite
Sophie Dravinel veut rectifier.
Je suis assez d'accord avec vous. Si c'était vrai. J'attends de le savoir parce que a priori, moi, ce qu'on me glisse dans l'oreillette, c'est que c'est un commentaire d'un conseiller et que je ne sais pas qui a intérêt à
ça
faire
ne vaut
la
pas
promotion
parole présidentielle
du film.
Selon vous. Pardon. Ça ne vaut pas parole présidentielle.
Voilà,
c'est ce que vous dites,
je ne crois pas. C'est à vérifier, mais c'est une réserve que j'émettrais sur cet écho.
C'est rassurant.
Je ne sais pas, mais en tout cas, je pense qu'il ne faut pas trop s'emballer
là-dessus. Parce qu'effectivement, il y a une belle filmographie pour découvrir les problématiques sur le terrain.
Attendez, ça semble un peu énorme.
En tout cas, le réalisateur indique toujours dans le JDD qu'il a été invité à l'Élysée, qu'il a refusé cette invitation, mais qu'il a invité Emmanuel Macron à venir voir le film, donc dans une de ses banlieues, pour qu'il aille aussi à la rencontre
de ses amis. À une école.
Oui, c'est le film au passage quand même, il faut le préciser.
Il n'a toujours pas répondu.
Alors,
il serait bon que les dirigeants aient une représentation de la banlieue uniquement dans les films, dans les fictions. Rappelez-vous la haine. C'était en 1995, c'est pas récent. On avait c'est un film coup de poing, c'est étonnant ce qui se passe, etc.
Oui, Lajli d'ailleurs a fait remarquer que c'était le point de départ au fond de son envie de faire du cinéma et que tant d'années plus tard, eh bien la situation à ses yeux n'avait pas changé.
Il y a un an et demi, il y a un film qui est sorti qui s'appelle Banlieusard, qui est aussi qui démontre la banlieue, qui est absolument spectaculaire. Mais on pouvait attendre des dirigeants qui connaissent la banlieue autrement que par les fictions, tout de même.
Après, c'est un vecteur comme un autre et on peut se féliciter du fait que le cinéma en France puisse
mais que
avoir
le cinéma
cette puissance,
nous montre, cette représentation-là, absolument, mais que le président de la République dise « Ah, bah, c'est comme ça, vous vite trouver des idées pour s'en
sortir. » Je ne suis pas sûre que ce soit le cas, comme vous l'avez dit. Mais...
ça m'inquiète. Bon, cela dit, pour revenir à votre question sur le rapport avec les maires, effectivement, on est là manifestement dans une relation qui est beaucoup plus apaisée désormais. Le travail préparatoire a été fait, Sophie Ravinel l'a très bien rappelé, et on a le sentiment que le président de la République a fait amende honorable sur une forme de déconsidération qu'il avait eue à l'égard des élus. Mais il ne faut pas non plus se voiler la face. On est dans un agenda politique qui est à 4 mois des élections municipales et personne n'a envie d'arriver aux élections municipales dans un climat de tension entre l'exécutif
personne
et les
maires. C'est un petit peu halte au feu avant ces élections-là. Nora m'a dit.
Il y a peut-être une câlinothérapie vis-à-vis des maires, mais peut-être pas les maires de banlieue, là, pour le coup, puisque ça fait des mois, en fait, que certains demandent à être reçus et qui ne le sont toujours pas.
Oui, faut-il le rappeler, Sophie Dravinel, il y a quand même deux grandes catégories. Il y en a de multiples, en fait, d'élus locaux. Il y a ceux de la ruralité et ceux des. allez, des banlieues, on n'aime pas trop ce mot, mais pourtant ça désigne le monde réel dans les grandes villes, les grandes métropoles.
Oui, c'est sûr. Et d'ailleurs, il l'a bien exprimé, Emmanuel Macron, dans son discours, en parlant, en faisant référence au bloc face auquel il peut se trouver, à la France périphérique. Je cherche les mots exacts qu'il a employés, je ne suis pas sûre de les trouver.
De toute façon, il est temps de conclure, donc voilà. Ça tombe bien.
Mais de fait, il a cette conscience-là, je pense, de cette France brisée. C'est pour ça qu'il l'appelle à faire bloc.
Allez, nous resterons sur le climat social dans la deuxième partie des Informés de France Info. On se retrouve dans une poignée de minutes après le rappel de la météo et le retour de l'info. À tout de suite.
Ressources, climat, biodiversité, face à ces défis majeurs, comment se mettre en mouvement et rêver le monde de demain?
France Inter et La Massive vous proposent un cycle de 3 conférences sur le thème « Demain, notre planète ». Premier rendez-vous le jeudi 21 novembre à 20h sur le thème « Changer ».
En compagnie de mes invités, Hubert Reeves, Cynthia Fleury, Aurélien Barraud et Valérie Cabanès.
Une conférence à vivre en direct dans les salles de cinéma partout en France. Informations et réservations sur franceinter.fr.
En partenariat avec La Massive.
Massif. Essentiel pour moi.
France Info Météo avec CIC Banque Privée. Banque privée du dirigeant d'entreprise. Parce qu'anticiper vous ouvre de nouvelles perspectives.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Un temps calme demain mais gris sur une grande moitié nord jusqu'au Lyonnais, au centre, aux Charentes et le long de la Garonne. Beaucoup de nuages bas le matin, des brouillards aussi. L'après-midi ça s'arrangera, les éclaircies reprendront le dessus mais pas partout. Ce sera parfois difficile au nord de la Seine, vers le nord-est, vers le Val-de-Saône également. Ça restera couvert sur la pointe bretonne avec quelques gouttes, parfois du vent. Plus au sud on trouvera du soleil dès le matin près des Pyrénées, sur l'ouest du Massif central et le nord des Alpes. Entre la Méditerranée et la moyenne vallée du Rhône, ce sera bien nuageux avec un risque d'averse sur la Corse et sur la Côte d'Azur. Le vent d'autant soufflera jusqu'au midi toulousain, entre 50 et 70 km à l'heure. Il fera froid, seulement moins 2 degrés à Reims, Nancy, Nevers, Limoges ou Tarbes, 0 à Lille, Orléans, Cognac et Toulouse, 1 degré à Paris, 3 à Lyon, tout de même 10 à Nice. L'après-midi, 5 à 9 degrés au nord, 10 à 14 au sud et jusqu'à 17 en Corse.
Et 30 minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Olivia Ferrandi.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. Et voici le portrait social de la France. Il est brossé ce soir par l'INSEE qui met en avant la forte progression du travail à temps partiel depuis les années 70. Près de 20% des salariés travaillent ainsi en pointillé aujourd'hui, principalement des femmes et des Français peu diplômés. Les emplois du temps atypiques ont tendance également à devenir la norme, que ce soit les horaires de nuit ou le travail le dimanche qui concernent désormais 28% des salariés. L'INSEE fait également le bilan des mesures fiscales et sociales du gouvernement depuis un an. Alors qui sont les grands gagnants? Eh bien la réponse tout de suite avec Isabelle Chailloux.
En 2018, les ménages ont globalement profité des mesures fiscales et sociales mises en œuvre après l'élection d'Emmanuel Macron, un gain de 0,7% de niveau de vie en moyenne. Mais l'image globale est trompeuse, car dans le détail, les foyers les plus modestes ont certes profité de la revalorisation de certaines prestations sociales, notamment la prime d'activité, l'allocation adulte handicapé, mais dans le même temps, ils ont aussi vu les aides au logement rabotées. Au final, calcule l'INSEE, les 10% de ménages les plus modestes ont gagné 130 euros de plus dans l'année. Les retraités ont globalement été pénalisés par la réforme de la CSG, une perte de 260 euros en moyenne. Les grands gagnants se trouvent parmi les 10% de ménages les plus riches, avec un gain de 800 euros. Et si on se concentre uniquement sur les contribuables auparavant redevables de l'ISF et supprimés en 2018, le gain est alors nettement plus conséquent, près de 10 000 euros de plus.
La main tendue du président au maire de France aujourd'hui, après avoir ignoré leur congrès l'an dernier, Emmanuel Macron a passé plusieurs heures avec eux cet après-midi. Et avant d'aller leur serrer la main et d'échanger quelques mots, il a prononcé un discours pendant une heure et demie dans lequel il a assuré qu'à leur contact, il se sentait maire de la commune France. Le président demande d'ailleurs leur aide pour recoudre cette France déchirée, dit-il. Mais Emmanuel Macron a maintenu aussi sa décision de supprimer à terme la taxe d'habitation. Et selon lui, la toxicité d'un produit chimique n'est pas de la compétence du maire. Allusion faite cette fois aux arrêts arrêtés anti-pesticides, dont deux ont été validés récemment par la justice. L'homme blessé à l'œil samedi au cours du premier anniversaire du mouvement des Gilets jaunes à Paris a perdu l'usage de son œil gauche. Il compte porter plainte. Sa compagne affirme qu'il a été touché par un projectile tiré par les forces de l'ordre. La police des polices a été saisie. L'enquête progresse au lendemain de l'effondrement d'un pont à Mirepoix-sur-Tarn, près de Toulouse. Le procureur indique ce soir que le camion et son chargement pesaient plus de 50 tonnes lorsqu'il s'est engagé sur le pont métallique, soit 2,5 fois de plus que le tonnage autorisé. À l'international, en Bolivie, la situation dégénère ce soir alors que l'armée tente de débloquer un dépôt de carburant bloqué depuis plusieurs jours par les partisans d'Evo Morales, le président déchu, qui a quitté le pays le 10 novembre dernier. Une personne a été tuée ce soir lors de ces affrontements. Il y a deux jours, l'ONU redoutait des dizaines de morts en Iran. Aujourd'hui, c'est Amnesty International qui avance le nombre d'au moins 100 manifestants tués, victimes de la répression après le mouvement de contestation de la semaine dernière. Un mouvement déclenché dans plusieurs villes par la hausse brutale du prix du carburant qui a triplé. France Info, 20h33, la suite des informés.
France Info, les informés. Jean-François Aquili.
La deuxième partie des informés de France Info avec Sophie de Ravinel, grand reporter politique au Figaro, avec Nora Hammadi, journaliste présentatrice de Vox Pop, magazine d'investigation sur l'Europe, tous les dimanches sur Arte, avec Mariam Pirzadeh, journaliste présentatrice à France 24, spécialiste de l'Iran, avec Thomas Clé, professeur de droit à la Sorbonne, Université Paris 1. Alors c'est un rapport alarmant qui relance l'hypothèse d'un âge d'équilibre pour le départ à la retraite. On va tenter de vous expliquer tout ça. Le système actuel, en tous les cas, sera en déficit en 2025 de 8 à 17 milliards d'euros, selon cette étude du COR, le Conseil d'orientation des retraites. L'âge pivot serait donc la meilleure réponse, plutôt que la durée des cotisations, pour faire des économies. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, invitée de France Info ce matin, a dit sa préférence à la clause du grand-père.
Je crois qu'il faudrait que la réforme à points, on ne l'applique qu'aux nouveaux entrants, qu'on arrête d'aller toucher aux droits acquis pendant des années et des années par des Français qui ont travaillé, qui ont un contrat de confiance avec le gouvernement. On dit qu'à partir de maintenant, tous ceux qui seront recrutés auront tous les mêmes droits et seront au même régime, à partir de maintenant. Et en revanche, on dit à tous ceux qui sont aujourd'hui en activité, si vous voulez qu'on maintienne vos retraites, il va falloir travailler un peu plus longtemps.
Voilà, la présidente de la région Île-de-France qui a dit également en substance, Thomas Clé, que le président Macron n'avait peut-être pas forcément anticipé qu'il allait avoir ce déficit du régime des retraites. On a la sensation de tourner un petit peu en rond.
En tout cas, elle l'a pas anticipé, parce que s'il y a bien une chose que ce rapport du COR achève, c'est cette fameuse clause grand-père. On nous dit qu'il y aura un déficit en 2025 de 8 à 17 milliards. Déjà, une fourchette, d'ailleurs, extrêmement large. C'est pas la même chose. Donc, on sait de toute façon que il va falloir modifier les règles d'aujourd'hui, non pas seulement pour les entrants d'aujourd'hui. Alors, c'est vrai que le système est extraordinairement compliqué. On a l'impression parfois qu'on essaye de brouiller les cartes entre l'âge pivot, l'âge légal, la durée de cotisation, l'augmentation de la cotisation, etc., etc. On a l'impression que c'est fait pour nous perdre. Et d'ailleurs, faire une confession, ça marche en ce qui me concerne.
Ça fonctionne sur
mais ouais, pour autant, ouais. Il faut bien en parler ici, incontestablement, ce rapport du COR, qui ne sera présenté d'ailleurs que jeudi, vient percuter la discussion sur les retraites.
Sophie de Ravinel, le rapport du COR évoqué à l'instant par Thomas Clé, au fond, il joue la transparence malgré tout.
Oui, absolument, il joue la transparence. Et c'est intéressant parce que ce rapport du COR, en fait, initialement, est sorti au mois de juin dernier. Et c'est Édouard Philippe, le Premier ministre, qui a demandé à cet organisme indépendant qui dépend de Matignon de réviser ses chiffres et ses prévisions. Il l'a demandé à la sortie de l'été, à un moment où le corps social était encore assez apaisé. Il n'imaginait pas du tout que les conclusions qui interviendraient 3 mois plus tard seraient exactement identiques à celles données au mois de juin, sachant que le déficit était de 10 milliards au mois de juin. Et d'ailleurs, Édouard Philippe, qui était en déplacement à Rodez en mois d'octobre, avait dit que si le corps nous dit qu'il manque 8 à 10 milliards, on devra dire qu'il faut travailler plus longtemps.
Oui.
Et donc, en fait, ce rapport vient dévoiler...
Il prépare l'opinion.
Absolument, ou prépare l'opinion, ou disons, c'est une grenade dégoupillée. Parce qu'aujourd'hui, maintenant que le corps est dans le corps de l'État, eh bien, l'État est obligé de s'en saisir et il ne peut pas la relancer. Et ce qu'il craignent le plus, c'est qu'évidemment, le 5 décembre, cette question des retraites, parce que vous dites que les Français s'y perdent, mais je pense que s'il y a un sujet sur lequel les Français sont attentifs et cherchent à savoir quels seront les conséquences pour eux, c'est bien celui-là. Et donc, évidemment, les retraites vont être le catalyseur de cette grève du 5 décembre.
Mariam Pirzadeh, est-ce à dire, pour poursuivre ce que dit Sophie de Ravinel, que au fond, le vieux départ à la retraite à 62 ans est quelque chose qui a vécu?
Quand on regarde la génération, parce que la génération 50, de 1959 à 1963 pourrait être impactée effectivement. Donc c'est des gens qui ont 60 ans, qui approchent de la soixantaine, qui doivent travailler jusqu'à 62 ans et ils apprennent qu'ils vont sûrement travailler jusqu'à 65, 67 ans. Il y a notamment la question de la pénibilité qui n'est pas reconnue dans certains métiers. Donc effectivement, demander un effort à des personnes qui ont travaillé plus de 40 ans, qui sont aussi fatiguées par leur corps de métier. Hein, je pense notamment à certaines professions comme les voilà des métiers compliqués. Oui. J'ai en tête les kinésithérapeutes parce oui. que ce sont par exemple oui. des métiers
qui demandent une application du corps,
une application
très forte.
Du corps et voilà qui vont devoir travailler plus longtemps. Donc effectivement, il y a tellement de régimes de retraite en France, il y a tellement d'exceptions qu'effectivement n'en faire qu'une réforme c'est un peu compliqué d'agréger toutes ces réformes en une. Honnêtement, moi, je suis perdue et je pense que je suis pas la seule.
Alors, vous êtes perdue, vous n'êtes pas la seule. Nora m'a dit, je crois que vous me l'avez confié hors micro, que
oui,
c'était...
Oui, je suis complètement perdue. Oui, non, mais oui. Il est vrai, en fait, que j'ai essayé de me plonger et c'est extrêmement complexe. C'est extrêmement complexe et je pense que ce flou et cette incapacité, en fait, à avoir une vision claire de ce qui va se passer, ces chiffres, puis qui vous l'avez rappelé, Thomas Clay, qui ne sont pas petits, des écarts entre 8 milliards d'un côté, 17 milliards de l'autre, comment peut-on avoir en fait un écart pareil, renvoie
dans
quand même...
Ça,
oui,
dans
je pense.
Oui.
Dans 5 ans.
Renvoie quand même en fait un peu à une forme de politique en fait un peu au doigt mouillé, qui est quand même pas très rassurante pour le citoyen moyen. Vous ajoutez à cela qu'effectivement, Mariam le rappelait, la question de la pénibilité, pour l'instant, elle ne fait pas débat. Qu'en est-il aussi, en fait, dans ce cadre-là, par exemple, de l'application à mettre les seniors, entre ouais. guillemets, au travail, puisque c'est bien tout ça. Mais bon, si on doit travailler jusqu'à 67 sans décote, imaginons comment faire, en fait, pour faire travailler et pour que les entreprises, en fait, acceptent de payer des salaires qui ne sont pas les mêmes que pour des juniors. Est-ce à dire que, du coup, on va se retrouver, en fait, avec... des seniors qui seront plutôt pris en charge par l'assurance chômage.
Oui, c'est toute la question sociétale, mondiale d'ailleurs,
oui,
sur le vieillissement des populations.
Mais du coup,
l'allongement de la durée de vie.
Je pense angoisse, mais qui est liée aussi en fait à l'incapacité d'avoir une visibilité et peut-être une gestion claire.
Encore un mot, Sophie
Drainel.
Oui, je suis. Moi, une petite nuance. Je suis pas sûre que ce soit du doigt mouillé ou mais peut-être effectivement le fait qu'on est face à un ravin et qu'il va bien falloir à un moment soit sauter. Soit trouver un pont pour aller de l'autre côté. Non. Mais il faut affronter un sujet dont tout le monde connaît les éléments.
Oui, mais sur le doigt mouillé, quand on se retrouve entre 8 milliards et 17 milliards, on n'a pas la même politique.
Oui, enfin, ce qu'on sait, c'est qu'il y a un gros déficit et que le corps parlait de 10 milliards au mois de juin. On peut rester sur ce chiffre-là. Et je crois qu'effectivement, face à ce chiffre, on peut comprendre que le gouvernement hésite. Mais je crois qu'effectivement,
si il y a quelque chose. Si on fait 10 milliards, il faut qu'on se retrouve avec 17
milliards
en
5 ans.
En tous les cas, il va falloir être patient, puisque je vous rappelle qu'il y a une discussion en cours, notamment avec les partenaires sociaux, que le gouvernement n'est pas censé faire ses annonces tout de suite. Donc, je pense
que. Et des grèves annoncées reconductibles qui risquent.
Nous allons en reparler largement dans les informés dans les semaines et les mois qui viennent. Allez, 20h40 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Soizic Bourg.
Je me sens de plus en plus maire de la commune France, gardien de l'essentiel, de l'unité, de la nation. Déclaration d'Emmanuel Macron au Congrès des maires de France. Le président de la République a parlé écologie, aménagement du territoire et lutte contre le communautarisme. Pas d'interdiction des listes communautaires municipales, mais des mesures à venir la semaine prochaine. Un camion de gabarit hors norme qui a fait craquer le pont, le tonnage du poids lourd en cause. Après l'effondrement du pont de Mirepoix, sur Tarn, plus de 50 tonnes alors que l'ouvrage ne peut en supporter que 19. Malgré des appels de phare de la camionnette qui le suivait, le chauffeur du poids lourd s'est tout de même engagé sur la structure. Un an après la première manifestation des Gilets jaunes, le projet de budget 2020 approuvé en première lecture à l'Assemblée nationale. Il comprend notamment deux mesures phares pour répondre à la contestation, la baisse de 5 milliards d'euros de l'impôt sur le revenu et la poursuite de la suppression de la taxe d'habitation. Une nouvelle hausse des tarifs douaniers sur les produits chinois aux États-Unis. Donald Trump brandit la menace si aucun accord n'est trouvé avec Pékin pour mettre fin à la guerre commerciale entre les deux pays. Et puis déjà, 1 million de personnes se sont fait vacciner en pharmacie contre la grippe. Premier bilan de cette nouvelle possibilité offerte aux patients. Un quart des Français piqués donc par leur pharmacien.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Nous évoquions la colère sociale. Voici les étudiants précaires. Le sujet, vous le savez, est à la une depuis qu'un étudiant à Lyon s'est immolé par le feu devant le Crous le 8 novembre dernier. Frédéric Vidal a annoncé la mise en place d'un numéro vert, mais pas de revalorisation des bourses. La ministre de l'Enseignement supérieur, qui a reçu plusieurs organisations étudiantes, était l'invitée de RTL ce matin.
Nous venons d'augmenter les bourses étudiantes. Hein. Nous
1,1%.
Nous venons de remettre 46 millions d'euros supplémentaires. Il y a les bourses sur critères sociaux, il y a aussi ce qu'on appelle les aides spécifiques, les aides d'urgence. Elles ne sont pas consommées en réalité. Donc je veux vraiment mettre en place un numéro d'appel, embarquer les organisations syndicales pour qu'elles nous aident à repérer les jeunes en situation de précarité. C'est un numéro d'appel qui sera mis en place au plus tard à la fin de l'année.
Thomas Clé, les arguments de la ministre, vous les validez ?
On ne répond pas à une immolation par un numéro vert. Je crois que ce n'est pas à la hauteur des enjeux. L'état de délabrement de l'université, moi je le vis au quotidien. Vous le rappelez régulièrement, je suis professeur à l'université. D'ailleurs, je peux prendre mon exemple, je suis professeur à l'Université Paris 1, qui est une des plus prestigieuses, qui est la plus grande université de sciences sociales d'Europe.
Je demain, confirme, j'y ai étudié.
Ben voilà, qu'il y a des résultats. Malgré l'état délabrement, demain, je ferai cours dans mon amphithéâtre, et j'aurai, comme chaque semaine, un micro qui fonctionne très mal. Parce qu'on n'obtient pas, même à l'Université Paris 1, ce type de choses. Alors, c'est beaucoup moins grave qu'évidemment le cas de la bourse de cet étudiant Anas K., qui s'est immolé par le feu à Lyon. Mais l'état de délabrement de l'université est une qu'on vit au quotidien, malgré des qualités de personnel qui sont incontestables, malgré une recherche scientifique qui est considérée comme une des meilleures du monde, mais l'université ne fonctionne plus. Et donc, je ne crois pas que le numéro vert soit à la hauteur de l'attente. Est-ce que celui qui va s'immoler, avant de s'asperger d'essence, il va prendre son téléphone et dire « Allô, SOS immolation ?» Qu'est-ce que c'est que cette manière de répondre ? Et j'ajoute qu'il y a un deuxième point qui me choque aussi dans les déclarations de ce matin de la ministre, de même ministre à RTL, elle a laissé entendre qu'il serait possible, parce que cet étudiant était syndicaliste, d'ailleurs fortement syndical, forcément syndicalisé auprès du syndicat solidaire. Et il a fait un message politique, c'est un geste politique, c'est évident. Mais elle a laissé entendre qu'il serait possible, en quelque sorte, de reconnaître l'engagement politique ou l'engagement syndical dans la prise en compte des notes à l'université. Et ça me semble être un moyen... je veux pas être trop fort, parce qu'après tout c'est comme ma ministre, mais assez désagréable d'essayer d'acheter la paix sociale avec les représentants syndicaux par rapport aux enjeux. Je rappellerai pour terminer que les syndicats à l'université, les syndicats étudiants ne sont pas représentatifs. Ils ne représentent rien, c'est 4% à peu près des étudiants. On les écoute beaucoup par rapport au reste des étudiants.
Ça, Nora m'a dit peut-être, chacun son tour, vous inquiétez pas.
Non mais effectivement, c'est drôle parce que je faisais une intervention à l'Université Paris 8, donc à Saint-Denis, donc ce n'est même pas Paris 1, au département de sciences politiques vendredi dernier. Et il y avait en fait une forme de... comment dire, de dépit, voire de colère froide chez les étudiants que j'ai rencontrés, qui disaient « mais comment est-ce qu'on peut nous mépriser à ce point ?» Puisque déjà à l'époque, la ministre remettait en question le fait que c'était un geste politique de la part de ce jeune homme. Ils m'ont tous également raconté, car effectivement, beaucoup d'élèves en fait à Paris 8, à Saint-Denis, sont dans des situations sociales qui ne sont pas évidentes. Ouais. Et aujourd'hui, s'entendre dire qu'on a revalorisé de 46 millions et s'entendre dire en fait qu'on a un numéro vert au cas où pour demander... voilà, ils l'ont véritablement vécu comme une forme de mépris. Et du coup, cela ajoute en fait... à la volonté de, et on l'a vu, c'est cette colère quand François Hollande en fait était à l'université de Lille. Je ne dis pas que ce qui s'est passé, je ne le justifie pas, mais cette colère aujourd'hui, elle est sous-jacente et il faut s'attendre en fait à ce qu'il y ait d'autres accès. Et les numéros de téléphone, c'est un peu une vieille habitude. Je rappelle aussi que le 39-19 pour les violences conjugales, le Grenelle contre les violences conjugales est en train de se tenir. On en est à 134 femmes en fait tuées. L'habitude des numéros de téléphone, là où
vous
on
dites
avait,
que
il y a
numéro
quelques
vert,
temps,
c'est
les
c'est
habitudes
pas
en fait, de faire des commissions,
dit Thomas Clément,
il ne faudrait pas en fait tomber aussi dans cette espèce de cynisme.
Chaque problème a un numéro vert.
Deux petits chiffres quand même, deux, trois chiffres. Le budget donc aux aides étudiantes, c'est 5,7 milliards d'euros. Ce sont des chiffres qui sont régulièrement mis sur la table. 15 millions d'euros d'aides d'urgence non utilisées chaque année, c'est ce qui est ajouté. 130 000 étudiants en très grande précarité. Selon l'Observatoire de la vie étudiante, moins de 1 sur 2 demande ces aides d'urgence. Sophie Dravinel, de quoi est-ce qu'on parle en fait ce soir ?
Eh bien moi j'ai un chiffre à rajouter. à ceux que vous avez donnés, c'est 35 millions. Parce qu'aujourd'hui, au Sénat, il y a, pour boucler le budget de 2019, il y a eu cette volonté de la part du gouvernement de retirer 35 millions d'euros de crédits réservés justement au financement de la vie étudiante et en particulier aux CROUS et aux bourses. Et ces 35 millions, il a fallu que le Sénat s'y oppose via un amendement socialiste. Il y en avait un autre communiste qui avait été voté. Et donc, effectivement, ces 35 millions, on nous expliquera peut-être qu'ils étaient en fait au sein de ces crédits non utilisés et qu'en fait on ne retire pas, mais que ça fait partie de cet argent qui n'est pas dépensé. Et ça, c'est un autre sujet sur lequel on pourrait, je pense, dire beaucoup. En termes d'image, c'est épouvantable. Au moment où effectivement ce jeune est entre la vie et la mort, on retire 35 millions, un coup de rabot comme ça, pour boucler le budget 2019. Moi, je m'interroge, même si sur le fond, la question est défendable, peut-être d'un point de vue du budget, c'est des tours de passe-passe qui m'échappent, mais l'image que cela donne est terrible.
Mariam Pirzadeh, vous aussi, vous diriez que ce n'est pas la bonne réponse, ce qui est dit officiellement, un numéro vert, et pas forcément d'augmentation des bourses étudiantes. Mais qu'est-ce que l'on peut répondre dans une telle situation?
Mais c'est ce que demandaient les étudiants, c'était la revalorisation des bourses. Vous vous rendez compte, 15% des étudiants en France, ils sont dans la précarité. Vous êtes étudiant à Paris 1, moi j'ai été étudiante à Paris 4, mais c'était il y a 10 ans. Le coût de la vie était différent. Aujourd'hui, vous avez vu le prix des logements à Paris parce qu'il n'y a pas assez de logements étudiants. Il n'y a pas suffisamment de logements étudiants, je pense notamment aux CROUS. Donc, quand il faut se loger, je lisais le reportage, le témoignage d'une étudiante à Bordeaux, édifiant. Elle est sans domicile fixe. Elle dort un soir chez une de ses amies. Ensuite, elle dort chez de la famille. Elle a, du coup, ça impacte aussi son sommeil. Ça impacte sa manière d'étudier. C'est pas normal qu'en France, en 2019, il y ait des étudiants qui soient à la rue et qui ne puissent pas étudier sereinement. Donc, je pense qu'effectivement, il faut revaloriser les bourses. Il faut aussi mettre les étudiants, parce que ce sont aussi les travailleurs de demain, les remettre au centre de la République.
Vous dites revaloriser les bourses. C'est-à-dire, Thomas Clay, qu'au fond, on sait que le gouvernement va s'affranchir. Ça a été annoncé par le président de la République de la fameuse règle des 3%. Il va y avoir aujourd'hui le chéquier sur la table.
Oui, demain, le Premier ministre va annoncer un grand plan pour l'hôpital. Mais il faut un plan de même ampleur pour l'université. Et vous avez raison d'insister, parce qu'il n'y a pas que l'état de délabrement des universités, il y a la condition des étudiants. Et le vrai sujet, d'ailleurs, aujourd'hui, c'est la condition des étudiants. Moi, je les vois dans mes amphithéâtres, ces étudiants, y compris à la Sorbonne, y compris au cœur du quartier latin. Je vois bien dans quelle situation ils sont personnels. Et puis, il y a un autre sujet, un sujet tabou, un sujet dont on ne parle jamais, mais quand même, que moi, j'ai expérimenté directement quand j'y ai été confronté, c'est la prostitution. Il y a quand même des étudiants qui se prostituent pour payer leurs études. C'est absolument dramatique. Donc ça, c'est des sujets qu'il faut savoir traiter. Et c'est pas un numéro vert qui va permettre de régler, qui est pas à la hauteur de ce sujet-là.
Sachant, si je peux me permettre, tout en étant absolument d'accord sur tout ce que vous avez dit, en particulier le dernier point, que si on veut élargir un tout petit peu le regard au niveau européen, et vous ne me direz pas le contraire, la situation des étudiants en France n'est pas la pire en Europe.
Oui, mais il y a la mieux. Prenons le Danemark ou prenons la Suède, ils ont mis en place en fait un revenu étudiant d'environ 1000 euros, et donc ça a été un choix politique en fait, qui permet aussi en fait d'éviter ce type de situation dont vous parliez à l'instant, Thomas Clay, et d'aller plus loin, parce qu'on sait à quel point, par exemple, les questions de prise en charge psychologique, de prise en charge de santé des étudiants sont dramatiques en France, ailleurs, mais voilà, il y a des solutions par le haut.
Et chercher donc les exemples qui vont nous faire aller vers le haut, comme vous le dites à l'instant, Nora Madi. Allez, on va évoquer la situation de l'Iran dans un instant. 20h50 sur France Info. Rappel de l'info avec vous, Soizic Bourg.
Rien ne se fera sans vous. Emmanuel Macron met les maires au centre de l'acte 2 de son quinquennat. Opération séduction du président de la République au congrès des maires de France après son lapin posé aux élus l'année dernière. Il promet des mesures contre le communautarisme sans pour autant interdire les listes municipales. Le camion qui est passé hier matin sur le pont de Mirepoix-sur-Tarn pesait plus de 50 tonnes. C'est deux fois le tonnage autorisé. Et c'est ce qui a vraisemblablement provoqué l'effondrement de la structure. Le chauffeur retrouvé mort hier soir engagé en connaissance de cause alors que la camionnette qui le suivait lui faisait des appels de phare. Plusieurs centaines de cheminots réunis à Saint-Denis à l'appel de la CGT contre la sous-traitance, le manque de personnel et les dégradations des conditions de travail. Le syndicat réclame un moratoire de l'ensemble des réorganisations à SNCF Réseau et une hausse générale des primes et des salaires. Les gardiens de prison de Jeffrey Epstein inculpés à New York, accusés d'avoir falsifié des documents qui disaient qu'ils avaient fait leur ronde alors que ce n'était pas le cas. L'homme d'affaires américain retrouve trouvé mort en août dans sa cellule après s'être suicidé. Et puis privé de supporters, les Bleus se sont fait très peur à Madrid pour leur premier match de Coupe Davis. Heureusement, la paire Mahut Herbert a donné le point de la victoire à la France qui bat les Japonais 2-1.
France Info. Et tout est plus clair.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquilin.
L'Iran est-il en train de basculer ? Les émeutes ont fait plus de 100 morts, selon Amnesty International, qui dénonce ce soir un recours à la force létale contre des rassemblements largement pacifiques. Les manifestations, vous le savez, sont parties d'une hausse des prix des carburants, soutenue avec ces mots très durs par l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien.
Certaines personnes risquent certainement d'être contrariées par cette décision, mais endommager et mettre le feu à des propriétés n'est pas un acte normal. Ces gens sont des voyous.
Mariam Pirzadeh, vous vous êtes largement documentée sur ce qui se passe actuellement en Iran. On a accès à peu de choses, l'Internet est coupé. 100 morts, dit au moins 100 morts, dit Amnesty, alors ?
Ce serait beaucoup plus. Il y a un blackout sur l'Iran depuis samedi soir. C'est-à-dire que les Iraniens n'ont pas du tout Internet. Ils ne peuvent pas poster des vidéos. Ils ne peuvent pas poster, décrire la situation. Mais effectivement, les quelques vidéos qui arrivent à sortir d'Iran sont terrifiantes. On entend le bruit des balles. Il y a un journaliste iranien qui a réussi à se connecter brièvement ce week-end et qui indiquait... On a l'impression, en fait, sans Internet, d'être tous emprisonnés. C'est très compliqué, la situation en Iran, parce qu'effectivement, moi, j'étais en Iran au moment des émeutes qu'il y a eu. Enfin, des émeutes, c'est le terme employé, mais de ces personnes qui sont sorties dans la rue en décembre 2017 et janvier 2018, et c'était pareil. Sauf qu'apparemment, cette fois-ci, c'est beaucoup plus violent que la Révolution verte de 2009 ou encore ce qui s'est passé en 2017. Donc là, effectivement, on parle de 100 morts. Moi, je crains et beaucoup craignent que le bilan soit beaucoup plus lourd.
Thomas Clay.
Oui, bilan d'ailleurs des deux côtés, parce qu'il y a évidemment des manifestants. Je crois que le chiffre qui circule, c'est 106 morts. Il y a des forces de l'ordre qui sont tuées à l'arme blanche quand même aussi aujourd'hui. Donc on est dans une situation de insurrectionnelle. Ce qui me frappe par rapport à ce que vous venez de dire, c'est le blackout d'Internet.
85 millions d'Iraniens quand même sont...
Oui,
et
total.
Et ça veut dire que ce gouvernement iranien a tiré les enseignements de ce qui s'est passé en 2009 et même en 2007. Rappelez-vous, on avait appelé ça la révolution de Twitter, parce que ça avait très bien fonctionné, justement, les relais sociaux avaient très bien fonctionné en faveur des manifestants. Donc là, pour éviter de se retrouver dans cette circonstance-là, ils ont préféré couper brutalement. Je crois qu'il n'y a pas de précédent d'un pays qui se met à ce point en autarcie d'Internet. Et le deuxième observation que je voudrais faire sur la situation actuelle, c'est que l'Iran, on le sait, est soumis à un régime de sanctions épouvantable de la part notamment des Américains qui sont sortis
du blocus des États-Unis.
Américains qui sont sortis de l'accord sur le nucléaire. Et ce qui se passe, c'est que notamment ce blocus a comme conséquence de rendre la vie vraiment très difficile pour les Iraniens et de susciter ces manifestations et ces révolutions. Excuse-moi. Voilà. Alors c'est alors de là à dire que Donald Trump avait raison, certainement pas, évidemment.
Le prix de la vie a explosé en Iran depuis un an et demi, depuis le retour de ces sanctions américaines. Mais dans l'esprit des Iraniens, cette inflation, ils ne sont pas sortis dans la rue lorsque le prix de la viande a été multiplié par 3, lorsque les prix des denrées, ils ne sont pas sortis. Mais là, ils sortent dans la rue parce que c'est une hausse. En fait, ce n'est pas une hausse, c'est la fin de subvention et qui est décidée par le gouvernement.
Pour des raisons sociales, on a passé de 11 centimes, qui est un des prix de l'essence le moins cher du monde, à une augmentation qui n'est pas déterminante pour revenir à des prix classiques. Et c'est ça qui, cette annonce a été faite vendredi soir, qui a suscité
une discrétion.
Nora m'a dit, c'est une révolution qui peut aller loin, selon vous.
Ah mais je pense qu'effectivement elle peut aller loin, mais ce qui est assez étonnant en fait, c'est que en plus ça se fait dans un moment où on aurait le sentiment d'un retour à un printemps ou à un automne en fait des contestations, quand on voit ce qui se passe en fait en Algérie depuis février, l'Algérie qui a aussi pour mauvaise habitude de couper les communications internet par exemple. Alors effectivement, ce n'est pas une grande démocratie, on peut le dire. Ce qu'on voit au Liban, ce qu'on voit au Chili,
à l'international, je dirais que c'est plus que au-delà du printemps arabe, il y a comme une internationalisation de la contestation sociale et qui dépasse. Parce que effectivement, le Chili, bon, il y avait le prix du bus au Liban, mais oui. Hong Kong aussi, même si les questions géopolitiques sont extrêmement différentes, il y a quand même une émulation.
Mais c'était l'objet, c'était ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, là, on voit bien qu'il y a une forme de volonté, en fait, collective, voilà, sur des questions qui passent, qui partent à la base d'une dimension sociale, d'être aussi dans la contestation d'un pouvoir qui est de plus en plus illégitime et considéré comme illégitime. Est-ce une aspiration à la démocratie ? Oui, de ce que je connais, mais de fait, ça peut aller beaucoup plus loin. Je parle de l'Algérie, par exemple. Beaucoup, en fait, craignent un scénario à la syrienne.
Le mot de la fin, Mariam Pirzadeh.
Effectivement, les slogans qu'on entendait peut-être en 2017-2018, là on entend des slogans qui sont contre le régime de la République islamique. C'est-à-dire qu'on a entendu assez vite vendredi « mort au dictateur ». Des portraits du guide suprême qu'on vient de voir ont été brûlés. J'ai vécu en Iran pendant 3 ans et je peux vous dire qu'on ne peut pas critiquer le guide suprême. Donc ce qu'ils font aujourd'hui dans les rues d'Iran, une centaine de villes sont manifestent aujourd'hui, c'est énorme.
Allez, il faut conclure. Sophie Dravinel, la une du Figaro demain.
Alors a priori, demain dans le Figaro, en une, quand je suis partie, nous partions sur justement toutes les agitations dans les universités.
Sophie Dravinel, Mariam Pirzadeh, Nora Hammadi et Thomas Clay, merci d'avoir été les invités de France Info ce soir, les experts. Vous retrouverez avec bonheur demain soir Neila Latrousse pour présenter les prochaines éditions des Informés sur France Info. Merci, bonne soirée.